Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi sur RMC à la radio, RMC Story, canal 23 de la TNT. On est ensemble jusqu'à 15h et c'est un vrai bonheur également d'être en compagnie de Rémi Barré. Salut Rémi.
Salut Estelle, bonjour à tous.
L'homme du vendredi, il est là à chaque fin de semaine et à chaque début également d'ailleurs. C'est Perico Légas, salut Perico.
Je me suis réveillé ce matin pour venir vous voir quand même.
Oui, hein. J'espère. Et c'est après, bien que vous soyez réveillé.
Pas trop quand même. Hein.
Oui. On est également avec notre journaliste indépendante de Dijon, Emmanuel Dancourt. Salut Emmanuel.
Bonjour Estelle, bonjour tout le monde.
Et puis le militant associatif Pierre-Édouard Magnan. Ça va Pierre-Édouard?
Très bien Estelle.
Allez, au sommaire d'Estelle Midi, aujourd'hui on va parler de la fugue de ces 26 mineurs recueillis par le navire Ocean Viking et qui avaient été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Ils ont fugué donc. Est-ce que c'est un camouflet pour la France? Vos réactions au 32-16. À midi et demi, à l'occasion du forum Elle Active dédié à la vie professionnelle des femmes, on se posera cette question: en fait-on assez pour les femmes aujourd'hui? À 13h, la nouvelle indemnité carbone ciblé uniquement pour les Français les plus modestes qui effectuent un trajet long pour aller au travail. Est-ce que c'est injuste? Vos réactions bien sûr au 32-16 et sur l'application RMC. 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h50, le journal décalé de Paul Lassen qui a fait le tour de la presse quotidienne régionale. Et puis à 14h, les retours des Michel Sardou et Paul Naref. Une tournée pour le premier, un nouvel album pour le deuxième. Est-ce que c'est formidable ou pathétique? Là encore, on attend vos réactions. Et puis peut-être, Rémi, que pour la dernière fois de la semaine et de nos vies.
Oui. Peut-être pas.
Ça se trouve, il ne reviendra jamais. On ne sait.
Peut-être, tu as raison. C'est une éventualité. En tout cas, à quelques jours maintenant de la Coupe du Monde, ce sera dimanche, RMC vous offre le meilleur équipement high-tech. Vous vous inscrivez tout de suite en envoyant coffre par SMS au 732-16. Et si vous êtes sélectionné, alors vous gagnerez le téléphone Samsung Galaxy M23 et le visioprojecteur portable. À ce moment-là, vous avez le choix. Soit vous gardez ce cadeau, soit vous y renoncez pour pouvoir ouvrir le coffre RMC avec à l'intérieur soit des AirPods, soit la totale Coupe du Monde, une télé 70 pouces, une barre de son, une Xbox Series S, un four à mini pizza et un mini bar. Alors, est-ce que vous oserez ouvrir le coffre RMC? Pour jouer, vous envoyez coffre par SMS au 732-16, coffre par SMS au 732-16.
RMC, Estelle Midi.
Midi 6 sur RMC et on va démarrer tout de suite Estelle Midi avec l'actualité du jour. Et c'est la fugue de 26 mineurs recueillis par le navire Ocean Viking et qui avait été prise en charge par l'aide sociale à l'enfance du Var la semaine dernière. Cette fugue évidemment pose beaucoup de questions. Et tout d'abord, comment ont-ils pu s'enfuir, Rémi?
Eh bien, le plus simplement du monde, en remerciant pour l'accueil, ce qu'ils ont fait, et en partant. Sympa. Ces jeunes, hébergés dans un hôtel de Toulon et pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, étaient en effet libres de leur mouvement, contrairement aux rescapés majeurs et aux mineurs accompagnés de l'Ocean Viking, qui restent, eux, maintenus dans la zone d'attente de la presqu'île de Gien. Conséquence, 3 des 44 mineurs concernés avaient déjà fugué dès le lendemain et le surlendemain de la prise en charge. Hier, 23 autres ont fait de même, majoritairement de nationalité érythréenne et égyptienne. Ils avaient prévenu les agents de l'aide sociale qu'ils n'allaient pas rentrer et qu'ils comptaient rejoindre de la famille en Allemagne, en Norvège ou en Suède. Ils sont donc désormais dans la nature. Et ce n'est pas fini. En début de semaine, la justice devait se prononcer sur le sort des majeurs et des mineurs accompagnés retenus dans la zone d'attente de la presqu'île de Gien. Problème, les magistrats ont été débordés par le nombre de dossiers, 177 au total, et il n'y avait pas assez d'interprètes. Résultat, 123 migrants sont désormais libres d'aller et venir sur le sol français, y compris ceux qui étaient considérés comme non éligibles à une demande d'asile.
Alors, est-ce que c'est un camouflet pour la France? Je vais commencer avec vous, Perico.
Alors, ce qu'il y a de bien avec l'État français, c'est quelquefois le pire, qu'il n'est pas toujours sûr. Quelquefois, avec l'État français, le pire est sûr. Et là, on a pour une fois, dans le terme de spectacle, la conjonction des branquignols, des pieds-nickelés et de guignols. On pouvait éviter cette situation. Le président de la République aurait pu dire, on applique le droit international, ce bateau doit rejoindre le port le plus proche, qui était un port tunisien, il me semble, et en tout cas, voilà, on n'est pas en état de les recevoir. On les reçoit. Au passage, on insulte l'Italie, qui, elle, a reçu 90 000 migrants l'an dernier, plus 42% par rapport à ce qu'elle a fait. Donc, un comportement exemplaire, que ce soit Mme Meloni ou pas, les Italiens sont là, et quand ils accueillent les migrants, les dossiers sont traités. Et nous, République française, avec la masse de fonctionnaires, de services d'État, compétents, sophistiqués, élaborés, on peut pas traiter les dossiers. Mais attendez, vous avez vu l'image qu'on donne, mais ne serait-ce qu'à ces gens-là. Alors, ce que je peux vous dire, entre guillemets, la bonne nouvelle, s'il y en a une, c'est qu'au moins ce genre d'incident ne se reproduira pas. C'est-à-dire qu'à cause de ça, on ne pourra plus accueillir un bateau avec des migrants, même s'il y a une urgence humanitaire. Parce qu'on ne voudra pas renouveler l'immigration.
Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ben non, on ne va pas les laisser mourir en pleine mer. Ce que vous voulez faire?
Mais le Danemark, il fait quoi quand il y a des migrants en mer ou la Colombie? Et pourquoi la France? Il y a une loi internationale. À ce moment-là, est-ce que vous voulez qu'on le demande à tout le monde, appel général à tous les migrants du monde, venez vite en France, on vous accueille. Estelle, il y a des règles, il y a des normes, il y a des codes, il y a des lois qui ont été faites par la France, il y a un droit international, voilà. Et si c'était le cas, pourquoi on n'a pas toujours accueilli les migrants depuis le début? Pourquoi tout d'un coup on changerait la donne?
Voilà. Parce que l'Italie n'a pas voulu les accueillir, et qu'on s'est retrouvés
dans le mur. Non. L'Italie en a tellement accueilli que nous, zéro, elle 90 000, et on dit, on se permet de donner des leçons. Qu'est-ce que ça veut dire? On est des pignoufs dans cette affaire. La France se comporte comme un pignouf. L'Italie est exemplaire. Merci, Madame Meloni, merci à la République italienne d'avoir un comportement. Et les Grecs,
mais vous pouvez
qui reçoivent.
Ça veut dire qu'on refuse tous les migrants, en fait.
On refuse pas tous les migrants. On applique le droit international. On fait en sorte que ces migrants n'aient pas à venir. D'abord, pour commencer. Alors, peut-être qu'on repense notre politique au niveau de la coopération avec les pays africains. Au lieu de les piller et d'installer des régimes qui pillent ces peuples, peut-être qu'on change notre politique avec étrangère. Et on applique le droit international. Ces bateaux-là repartent de l'endroit où ils viennent. Alors, ensuite, on dit, qu'est-ce qu'on fait de ces migrants quand ils restent en Tunisie, au Maroc, en Algérie?
C'est pas ça le droit.
C'est quand même pas ça,
de savoir d'où ils viennent.
Le droit, au port le plus proche.
Le port le plus proche, pour le coup, c'était un
port. Donc, monsieur Macron a voulu faire un coup de politique intérieure en disant, voyez, pour mettre en porte-à-faux l'extrême droite, moi je les accueille, et on n'est même pas capable de les accueillir. Mais quelle honte!
Truc le plus fou, c'est que on se dit, bon, bah, on accueille, c'est bien, ils vont être contents, ils vont arriver en France et tout, mais en fait, ils veulent même pas venir chez nous. Donc c'est ça, en fait, on accueille des gens qui, de toute façon, ne voulaient pas venir chez nous.
Mais le plus humiliant, c'est ça. Ils vont s'enfuir de France tout de suite.
Comme tout d'ailleurs, la question des migrants qui sont aujourd'hui autour de Calais, hein. Ils ne veulent pas rester en France, ils veulent passer en Grande-Bretagne. On les maintient en France parce qu'on est payé par les Britanniques pour le faire.
Cette situation, elle est ubuesque, Pierre-Edouard Magnan.
Ben oui, elle est ubuesque parce qu'en fait, la première volonté des migrants, notamment ceux qui viennent des pays africains, c'est d'abord en tout de fuir leur pays. Mmh. Et que ce soit d'ailleurs pour des raisons politiques, économiques, religieuses ou quoi que ce soit, j'allais dire, ou climatiques, toutes les raisons sont valables. Enfin, je veux dire que, quelque part, quelqu'un qui risque la prison pour ses idées politiques a autant de raisons de s'enfuir que quelqu'un qui crève de faim parce qu'il n'arrive pas à vivre et nourrir sa famille. Je veux dire, moi, je déteste cette différence entre des migrants dits politiques et des migrants dits économiques. Dans les deux cas, on sait pourquoi ils fuient. Après, alors, je sais pas si 20 gamins peuvent faire un camouflet à la France. Ce qui est sûr, c'est que ça manifeste une fois de plus la faillite totale du fonctionnement de l'ASE dans notre pays, qui ne concerne pas
l'aide sociale à l'enfance.
L'aide sociale à l'enfance, pardon, qui ne concerne d'ailleurs pas que les mineurs non accompagnés et les jeunes migrants. On sait très bien à quel point ce système est défaillant. Alors, y compris aussi faute de moyens. On a parlé des moyens de la justice qui n'arrivent pas à traiter des dossiers. On pourrait aussi parler.
Enfin, on n'arrive même pas à avoir des interprètes. C'est quand même la faillite de la France, pardon.
Mais c'est-à-dire qu'après,
on n'arrive pas à traiter 200 migrants, à avoir des interprètes.
Le meilleur moyen,
il y a même eu un témoignage au tribunal d'Aix-en-Provence où on a recruté une femme de ménage d'origine pakistanaise pour pouvoir faire traductrice.
Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc quand vous déconstruisez une structure, vous pouvez dire après qu'elle ne fait plus son travail. Et donc du coup, on ne fait plus le travail. On a fait la même chose sur un sujet qui a rien à voir avec la médecine du travail en France. On l'a déconstruite pour qu'elle puisse plus faire son boulot. Puis comme elle ne fait plus son boulot, on dit que c'est plus nécessaire et on le supprime. Finalement, le raisonnement est exactement le même. On déconstruit l'ASE, et je répète, ça ne concerne aussi les enfants orphelins nationaux, qui sont aussi maltraités dans des genres un peu différents que les enfants, que les jeunes enfants. Non, mais on retrouve toujours ce système-là. Donc, évidemment, qu'il faut accueillir des gens qui sont en détresse. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de débat, quelles que soient les difficultés, quels que soient les éventuels errements, quel que soit ce qu'on peut craindre ou pas craindre, je m'honore, j'espère, de rester dans un pays, et j'espère ne pas être le seul, parce que les 90 000 migrants, pour l'instant, on peut les mettre au crédit de l'Italie. Pas tellement de l'actuelle présidente du Conseil qui vient d'arriver.
Oui.
Et c'était pas vraiment tout à fait la même politique qui était menée avant, mais effectivement qu'on ne laisse pas des gens mourir en mer. Après, et là je suis d'accord avec toi Perico, évidemment que ça renvoie aussi à des politiques plus larges, des politiques de coopération et un travail plus large, parce qu'en soi, on va pas pouvoir être dans un monde où on continue d'avoir des gens qui fuient l'Afrique, qui arrivent en Europe, en plus en pensant que c'est formidable, et en général ils sont évidemment extrêmement déçus parce que la situation est tout sauf formidable, et c'est ingérable, ça ne peut gérer qu'à l'échelle européenne, c'est des politiques de coopération, enfin bref, on est très loin des politiques aériennes dont on est les témoins aujourd'hui.
C'est aussi un camouflet pour Gérald Darmanin, quand même, le ministre de l'Intérieur, Emmanuel Dancourt, parce qu'il voulait plus de fermeté sur les OQTF et on n'est même pas fichu de s'occuper de 25 gamins, quoi.
Il s'est réexprimé d'ailleurs en disant que maintenant, tous ceux qui étaient illégaux, il fallait vraiment que ce soit plus sévère, etc. Moi, j'écoute tout ce que vous dites, j'ai en tête, il n'y a pas si longtemps que ça, plus d'une vingtaine de migrants qui sont morts dans la Manche entre la France et l'Angleterre, parce qu'aucun n'a réagi, parce qu'un coup ils étaient dans les eaux françaises et puis un coup ils étaient dans les eaux anglaises, et résultat, comme une embarcation, ça divague un peu, hein, finalement personne n'a réagi, ces gens-là sont morts. Donc évidemment que la France a bien fait d'accueillir ces migrants, il faut quand même voir qu'ils viennent de pays terribles.
Enfin, ils ne veulent pas venir chez nous.
L'Érythrée. Ils veulent venir en Europe. En fait, c'est pas la faillite de la France.
Là, il y en a qui voulaient aller en Allemagne, d'autres en Angleterre.
Oui, personne n'a voulu. C'est ce que je suis en train de dire. C'est la faillite de l'Europe. Si c'est un camouflet, c'est un camouflet pour l'Europe et pour nos lois telles qu'elles sont faites actuellement. Il va falloir qu'on change les choses parce que ça, c'est un épiphénomène. Ça va empirer, comme tu le disais, Pierre-Edouard, ça va empirer parce qu'on va avoir de plus en plus de réfugiés climatiques, notamment, mais pas que. Et moi, je fais pas la différence effectivement entre les politiques, les économiques, les climatiques. Enfin, ils viennent de pays où aucun d'entre nous ne voudrait habiter. Ils passent par des choses hallucinantes. Oui. Ils restent en mer. Beaucoup d'entre eux meurent. Eux, ils survivent. Ils arrivent en France. Et je pense à ces mineurs qu'on a mis dans un hôtel où effectivement ils avaient le droit de circuler. Ils ont un assistant social qui vient les voir tous les 15 jours. Ils sont complètement livrés à eux-mêmes, les gamins. Il faut s'imaginer des gamins de 14, 15, 16, 17 ans. Et c'est ce que qui ont de la famille, qui les attend.
Il y a une faillite de la France là-dessus.
Mais c'est ça qu'il va falloir de la France et de l'Europe. Et c'est ça qu'il va falloir organiser. C'est qu'au moins ces gamins-là puissent retrouver leur famille, que ce soit en Suède, au Luxembourg, en Allemagne, etc. Évidemment que c'est ça qu'ils veulent faire. Et je comprends ces gamins. Ils parlent pas un mot de français. Ils ont même pas d'interprète qui parle leur langue. On leur dit rien. Moi, j'aurais fait à leur place. Je faisais la même chose. Je faisais la même chose et
comment ils vont vivre ces gamins avant d'arriver en Allemagne ou alors
et ben
en
c'est
Angleterre,
bien ça qui m'inquiète que... j'aurais voulu qu'on sécurise leur filière et qu'on les ramène vers leur famille
parce que mine de rien en Angleterre qu'est-ce qui va se passer pour ces gamins qui veulent aller en Angleterre et pas prendre le Thalys donc en fait ils vont reprendre encore avec des passeurs une embarcation pour aller en Angleterre et qu'est-ce qui va se passer
et sans doute qu'ils n'ont pas l'argent pour la prendre cette embarcation
mais en plus parce qu'ils doivent plus avoir d'argent on fait quoi de ces gamins ils sont là ils sont livrés eux-mêmes
c'est dramatique
mais ils vont se démerder
qu'on se réorganise parce que ce sera
pas
les derniers.
Des délinquants par la force des choses. Enfin, je veux dire, s'ils veulent ne pas mourir de faim, ils vont devoir évidemment se faire des vacances. Mais vous imaginez, ils arrivent de pays plus ou moins en guerre, civile ou extérieure. Ils viennent de traverser la Méditerranée dans des embarcations dans lesquelles on n'oserait même pas faire monter d'ailleurs nos propres enfants pour aller faire une excursion. Ils arrivent là, au demeurant, ils ont une capacité de survie qui est, à mon avis, inimaginable pour des Occidentaux tels que nous. Sauf que là, ils vont se débrouiller. Ils veulent rejoindre qui la Suède, qui l'Allemagne, parce qu'ils y ont de la famille. Et ils vont se débrouiller. Effectivement, ils vont être contraints à un moment. Alors, où ils vont tomber sur des associations qui vont les nourrir, tant mieux, mais ils risquent aussi d'être contraints à la délinquance, parce que quand vous avez faim, ben voilà. Du coup, en plus, on va renseigner le truc, regarder ces migrants délinquants, en plus,
c'est nous le problème, c'est l'Europe le problème. On n'est pas organisé, il va falloir qu'on se réorganise. Sinon, ça va être dramatique dans les années à venir.
Pour structurer l'immigration.
Notre invité sur ce débat, c'est l'avocat Thibault de Montbrial. Bonjour, maître.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous dans Estelle Midi. On se pose la question là sur la fugue de ces mineurs et puis plus généralement sur effectivement les migrants et l'accueil qu'on leur donne en France. Est-ce que c'est un camouflet pour la France qui est en train de se passer ?
Bah, c'est pas un camouflet pour la France parce que c'est pas du tout une surprise. Ce qui se passe depuis que ce navire a accosté à Toulon. C'est la somme de toutes les insuffisances de notre système et c'est la c'est faillite, c'est l'illustration de la faillite de la politique migratoire européenne. J'ai écouté depuis deux minutes, je suis à l'antenne simplement depuis deux minutes, la fin des dernières interventions. Je voudrais préciser d'abord que les gens en question n'ont pas été secourus, on les a pas accueillis parce qu'ils étaient sur un bateau en détresse, ils n'étaient pas du tout sur un bateau en détresse, ils ont été accueillis parce que des associations financent des bateaux pour aller chercher, parfois même dans les eaux territoriales des pays d'Afrique du Nord, en particulier de la Libye, des embarcations mises à l'eau par les passeurs une fois qu'ils savent que ces bateaux d'association sont au large. Il y a à la base de la problématique quelque chose qui est complètement biaisé, c'est que vous avez d'une part les réglementations européennes qui font que pour faire très court, je développerai si vous voulez, mais pour faire court, une fois qu'on est entré en Europe illégalement, on y reste. C'est-à-dire que les expulsions, ça marche extrêmement peu.
Oui, ça, on l'a vu, oui.
Les gens savent que les migrants savent deux choses. Ils savent d'une part qu'il va y avoir des filières organisées de façon relativement confortable. Quand je dis relativement confortable, c'est relativement. Il y a évidemment des drames, mais il y en a beaucoup moins qu'avant. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'il y a cette collusion entre les associations et les passeurs qui font que très vite ils vont sur un bateau qui est un bateau solide sur lequel on s'occupera bien d'eux. que ce bateau ne va pas aller vers les ports sûrs tunisiens, il va aller directement en Europe, donc sans respecter le droit maritime, avec des associations dont le but est de faire rentrer ces gens. Et la deuxième chose qu'ils savent, c'est que les réglementations européennes font que, pour faire court, une fois qu'on est en Europe, on y reste. Donc la seule solution...
Juste ce que vous dites, Thibault Mondrial, c'est que concrètement, s'il n'y avait pas les bateaux de ces associations, il y aurait moins de migrants.
S'il n'y avait pas les bateaux de ces associations, il y aurait les migrants sauraient que le risque de faire la traversée en arrivant vivant de l'autre côté est extrêmement faible, d'où il y a eu beaucoup de drames avant. Et nous aurions, donc quand les choses, plus les choses sont difficiles, moins les gens le font. Mais je voudrais ajouter un argument avant que vous tombiez tous dessus, parce que je vous sens venir. C'est la seule politique migratoire qui serait aujourd'hui responsable et qui est à rebrousse-poil de tout ce qu'on a fait depuis 40 ans et qui est en train d'amener à l'explosion de l'Europe. Hein, je veux dire, c'est un sujet qu'on peut développer, mais c'est un vrai sujet. C'est qu'il y ait une politique de retenue des gens à l'extérieur et de choix de dépôt des dossiers et de validation des dossiers de demande d'asile, sur lequel évidemment il n'y a pas question.
Oui, une immigration choisie.
À l'extérieur.
Ce que fait le Canada, par exemple.
Bien sûr, mais ce que fait l'Australie, ce que font un certain nombre de pays, notamment les pays anglo-saxons. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, du fait qu'une fois qu'on est en Europe, on y reste, en réalité, les demandes d'asile sont très longues à être instruites, mais même quand les gens sont déboutés, ils restent en Europe.
Mais tout à fait. Oui, parce qu'on peut pas les. Il n'y a que 12% des OQTF qui sont appliqués. Donc,
voilà, et c'est pour ça qu'ils viennent aussi nombreux. Donc, et dernier mot, mais c'est important, le responsable de l'agence européenne Frontex, qui est chargé de faire la garde, on va dire, de nos frontières, était un Français. Il a été renvoyé l'année dernière parce qu'il a tiré la sonnette d'alarme. Il a expliqué qu'il fallait que nous soyons beaucoup plus défensifs, c'est-à-dire qu'il y ait ce qu'on fasse, de repousser le bateau en accompagnant les gens, en leur donnant à manger et à boire, mais en renvoyant les bateaux au port de départ. Ce que fait l'Australie très bien.
D'accord.
Et la Commission européenne l'a dirait en disant non, la tradition de l'Europe c'est d'accueillir et nous ne faisons pas de pushback. Mais à mal accueillir, nous nourrissons les drames futurs.
Voilà,
et pour ces migrants et pour nos populations, dont je rappelle quand même que le gouvernement a d'abord le devoir de protéger sa propre population.
Bah, merci beaucoup Thibault de Montbrial. Merci d'avoir été avec nous dans Estelle Midi. Vous voulez rajouter quelque chose?
Quelques précisions quand même par rapport à ce qui vient d'être dit. Le fait qu'il y ait moins de morts en Méditerranée, en tout cas que ça soit de manière un peu plus confort, parce que les migrants, les passeurs savent qu'il y a des bateaux de sauvetage. Il y a eu 3231 personnes déclarées décédées ou portées disparues en mer Méditerranée en 2021, c'est plus qu'en 2018, il y en avait eu 2277. Voilà pour une première précision. Et puis pour ce qui est de l'Ocean Viking, effectivement, le navire n'était pas en perdition, n'était pas en situation de naufrage. Mais en revanche, ça faisait 3 semaines que ces migrants, plus de 200 migrants, étaient à bord de ce navire et qui étaient dans une situation, on imagine, d'hygiène et de confort qui était déplorable.
Et puis quand même tu les ramènes chez eux, ils vont repartir sur des embarcations beaucoup moins sécuritaires. Enfin bon, c'est des gens qui sont désespérés.
Mais si tu ne sais pas les accueillir, et c'est vrai que l'immigration choisie, c'est le choix du Canada, par exemple, qui est Canada, c'est 40 millions de personnes. Et cette année, ils vont accueillir 500 000 personnes, justement, en immigration. Donc, mais ils choisissent, tout simplement. Et comme ça, ils les accueillent bien. Le problème, c'est que tu n'accueilles pas bien.
Ceux qui ne sont pas accueillis, alors.
Géographiquement, au Canada, c'est assez simple de faire du barrage, parce que personne ne peut y arriver en coquille de noix ou à pied. C'est un vrai sujet. L'Australie, à part le phénomène indonésien, et je ne connais pas bien les flux migratoires qui sortent de l'Indonésie, mais ça, ils ont la chance d'être une île, ce qui facilite quand même beaucoup les choses. L'Europe est un cul-de-sac à immigration depuis qu'il y a de l'être humain. Je veux dire, les premiers êtres humains nés en Afrique ont abouti en Europe.
Ces populations.
Comment tu régules
ces populations?
Il va falloir l'organiser et gérer l'immigration, parce que j'aime toujours rappeler ça là-bas, c'est toujours la démographie. Si l'Europe veut, à horizon de 50 ou 60 ans, garder son niveau de vie, son développement économique, elle devra accueillir des immigrés, parce que sa démographie, ce qui n'est pas forcément un mal dans le contexte, on ne parlera pas des 8 milliards. Et aujourd'hui, ne renouvelle pas cette population. Donc, il faut organiser l'immigration. Il faut effectivement l'accueillir et la gérer. Ce qu'on ne fait pas du tout aujourd'hui, puisque tout le monde se replie sur lui-même.
Personne n'ose parler d'immigration choisie. Tu sais très bien, Pierre-Edouard.
La citadelle assiégée, ça n'a jamais marché.
Excuse-moi, sur l'immigration choisie, moi, je suis petite fille d'immigrés, suisse d'un côté, italien de l'autre. On n'aurait jamais fait partie de cette immigration choisie. Je viens vraiment du très très bas.
D'accord.
Jamais fait partie. Au contraire, l'honneur et la grandeur de la France et de l'Europe, c'est justement de pas sélectionner, d'accueillir tout le monde et de laisser sa chance ça à tout le monde. Mais ah, tu peux pas, tu leur laisses notre loi n'est pas faite pour ça aujourd'hui.
De la chapelle, c'est ça que tu fais aujourd'hui.
Justement, avec de l'accompagnement, faut tout revoir.
C'est extraordinaire parce que le confort idéologique que vous êtes en train de promouvoir, là, confort idéologique, vous avez besoin de vous rassurer. Ces populations veulent partir. Il y en a qui partent pour de très bonnes raisons, d'autres de bonnes raisons, d'autres de moins bonnes raisons. Ils veulent partir. L'espoir, notre civilisation, le monde occidental, on va dire comme ça, constitue pour eux un espoir. Ils ont envie de venir. On n'est plus capable de les accueillir. On les traite mal. Et les populations locales, même les immigrés intégrés, disent on ne peut plus continuer à accueillir comme ça massivement des migrants. Ça crée une fracture sociale et un désaccord dans le pays. Le Rassemblement National est à 42% au deuxième tour de l'élection présidentielle. Vous voulez quoi? Qu'elle gagne?
Mais vous allez tout droit.
Mais vous savez très bien que votre théorie, elle aboutit. Non, tu sais très bien que ta théorie généreuse, voilà, nom de Dieu. Tu sais comment ça va se finir. Tu sais comment ça va se finir. Il y a des gens qui n'en peuvent plus, qui ne comprennent pas. Et la scène qu'on a vue là aujourd'hui, elle est tragique par rapport à la cause des migrants, qui est une juste cause. Et la République française universelle continuera toujours à accueillir ceux qui ont vocation, ceux qui ont vocation à venir sur les territoires français. Où nous sommes dignes de les recevoir, de les accueillir et de leur offrir un espoir, si c'est pour les traiter comme on les traite, avec les débordements, et ensuite créer
et
chez nous...
En plus.
Et créer chez nous, j'allais dire, une détestation, une fracture... qui divise la société française.
Mais ça,
tu t'en fous.
Mais tu t'en fous.
Et puis quand le Rassemblement sera au pouvoir, et puis surtout quand il sera au pouvoir, vous aurez enfin le fascisme qu'aura conquis la France. Vous aurez une raison d'être et de vous battre et de pouvoir professer votre idéologie généreuse. Voilà. En fait, vous détestez ce pays. C'est faire du mal à la France que de dire on peut accueillir tout le monde. Il faut soutenir ces gens.
C'est insignifiant.
Non. Ce n'est pas aimer ce pays et ce n'est pas aimer les migrants que de dire faut tous les prendre. C'est pas servir leur cause. C'est pas les aider.
Je sais pas comment ils sont là. Toi, sert leur cause.
Parce que qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'ils sont devenir?
Et ben justement, on n'arrive pas à les accompagner. Il faut les accompagner.
Qui s'occupe d'eux? On s'en fout, qu'ils crèvent. Et ensuite, on apprend qu'ils se noient dans la Manche. Ah, mais on les a fait venir. Et ensuite, ils disent, ah, mais ils sont noyés en Angleterre. Mais c'est aberrant. C'est aberrant.
C'est aberrant. Emma, je te laisse le mot de la fin.
Branchez-le.
Moi je parle de faits.
Ils vont peut-être mourir ces gosses.
Tu prends des faits et tu réagences les choses comme ça t'arrange. C'est de notre faute.
C'est à nous d'organiser
la filière pour les amener chez eux, dans la famille. Ils ont trop souffert, ces gamins-là. Et si on se réorganise pas dans les années qui viennent, ça va être dramatique.
Et comment tu fais pour les amener en Angleterre? L'Angleterre fait plus partie de l'Europe.
On va trouver. C'est de la loi internationale. Il faut travailler dessus pour que les juristes travaillent dessus.
Tu peux pas travailler sur chacun. Comment tu fais?
On n'arrive déjà même pas à travailler sur la loi.
Mais non, mais c'est pas ça. Comment tu fais? Là, il y a ils sont que 234, on n'arrive même pas à les gérer. 234, on n'arrive même pas à gérer. Ils étaient 44 gamins. Il y en a 26 sur 44. Non, mais t'imagines, on n'arrive pas à gérer.
On n'arrive pas à gérer parce que c'est pas organisé. Ils sont arrivés comme ça. On les a appris.
Ça faisait déjà au moins 3 jours qu'on savait. Et en 3 jours, on ne peut pas organiser.
C'est bien ce que je dis. Il faut qu'on se réorganise.
Le défaut d'organisation ne justifie pas l'arrêt d'une politique.
Non,
c'est pas parce qu'on prive une politique de moyens que la politique est mauvaise.
Enfin bon, en tout cas, on vous a posé la question. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de prendre d'auditeurs à cause de Perico sur ce débat, mais on vous a posé la question.
Tu n'aimes pas les auditeurs, Perico.
De l'émission Fugue de 26 migrants mineurs. Est-ce que c'est un camouflet pour la France, Rémi?
C'est massif. C'est un camouflet pour notre pays, pour 91% des personnes qui sont prononcées sur nos réseaux sociaux.
Dans un instant, on parlera des femmes. Tiens, ça va faire plaisir à Emma. Est-ce qu'on en fait assez pour les femmes au niveau professionnel? Elles sont 70% à travailler, mais c'est souvent plus compliqué que pour les hommes. A tout de suite dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story Canal 23 avec Rémi Barré, Perico Légas, Emmanuel Dancourt et Pierre-Édouard Magnan avec vous également au 32-16 pour réagir à l'événement du jour. C'est le forum Elle Active qui se tient aujourd'hui à Paris et qui est dédié au changement de vie professionnelle des femmes. Aujourd'hui, elles sont 70% à travailler, mais c'est souvent plus compliqué que pour les hommes, Rémi.
Exactement, et même si elles ont tendance à diminuer, les inégalités restent encore très très importantes. D'abord en matière de salaire, selon le dernier rapport de l'ONG Oxfam, en France, les hommes sont rémunérés en moyenne 28,5 5% de plus que les femmes. C'est comme si, en se basant sur les données de l'organisme de statistiques de l'Union européenne Eurostat, c'est comme si depuis le 4 novembre dernier, à 9h10 du matin, c'est précis, les femmes travaillaient gratuitement dans ce pays. L'une des explications de cette différence de salaire, notamment, c'est la précarité de l'emploi de ces femmes. En France, elles occupent 76% des postes à temps partiel, parfois par choix, mais souvent, très souvent, parce que leur travail ne se limite pas à celui effectué en dehors du domicile. C'est l'inégalité de la répartition des tâches dites ménagères, sans compter la charge mentale, à tel point qu'aujourd'hui, dans notre pays, 42% des femmes disent que même si elles le souhaitaient, elles ne pourraient pas avoir un travail rémunéré en raison de la charge trop importante du travail dont elles ont la charge au sein de leur foyer.
Alors, en fait-on assez pour les femmes? C'est la question qu'on vous pose. Et bien sûr, je vais me tourner autour auprès de Maëlle Dancourt.
Je crois que tout est dans ce qu'a dit Rémi. Hein. La réponse est non. Hein. Et que personne sur ce plateau n'a visé à dire oui. Hein.
Moi, ça dépend de quoi on parle.
Non, mais voilà.
Moi, ça dépend de quoi on parle. Parce qu'il y a juste un truc, c'est que quand on me parle. Pardon, hein, mais. Si aujourd'hui, dans Estelle Midi, tu fais la différence entre le salaire des hommes et le salaire des femmes va être plus fort. Pourquoi?
Ah, pas le mien.
Non mais je parle pas
je suis à peu près sûre que je suis moins payée que Perico.
Non mais c'est pas ton problème. D'accord. Le problème c'est que là, en fait, ce que je veux te faire comprendre, c'est que quand on dit salaire des femmes et salaire des hommes pas égal, on ne parle pas des mêmes postes. C'est-à-dire qu'on parle d'un global. Si dans Estelle Midi tu fais le global, le salaire des femmes va être plus élevé. Pourquoi? Parce que je suis désolée, mais mon salaire est plus élevé que le vôtre. Donc en fait, il y a un biais. Et à chaque fois que vous voyez ça, il y a un biais. Mais si tu regardes à poste égal, aujourd'hui, il y a extrêmement peu de différence. Il y a toujours une petite différence, il faut la gommer. Mais en vrai, Quand on parle des inégalités, moi ça me hérisse, tu vois. Donc voilà, moi
je sais que ça te hérisse. Je sais que ça te hérisse.
Non, mais parce qu'il faut savoir de quoi on parle.
Moi, ce qui me hérisse, c'est que depuis effectivement le 4 novembre, les femmes travaillent gratuitement. Il faut quand même regarder au global aussi. On peut pas parler que de nous. Mais on peut pas parler que de nous. Oui, mais après c'est pas peut-être pas toi et moi qui sommes concernés. Non. C'est dans d'autres métiers, dans le monde, 50% dans le monde, 50% des postes sont occupés par des femmes, principalement dans le secteur primaire, dans l'agriculture et dans le tertiaire. Il faut dézoomer un petit peu de notre esprit franco-français et regarder ce qui se passe dans le monde à ce niveau-là. Et évidemment qu'on n'en fait pas assez. Moi, je trouve que d'une manière générale, on a un gouvernement qui n'est pas engagé sur ces questions-là, qui d'une manière générale a du mal avec tout ce qui est social. Je veux dire, même si on dézoome de ce sujet-là, mais pour rester sur le sujet des femmes, on a un gouvernement qui n'est pas engagé. Moi, qu'est-ce qui a bougé vraiment, honnêtement? Qu'est-ce qui a bougé?
Mais en fait, le truc, c'est que moi, je pense que l'inégalité salariale, c'est le petit bout de la lorgnette. Ce qu'il faut, c'est que les femmes accèdent à plus de postes de pouvoir. Parce que plus tu accèdes à des postes de pouvoir, et plus tu es payé.
T'as vu quand ils ont passé la loi pour qu'il y ait plus de femmes, qu'il y ait 50% des femmes dans les conseils d'administration? Oui. Oh là là! Moi qui suis dans des conseils d'administration,
Peut-être, je suis désolée, on va me tomber dessus, hein. Peut-être qu'il y a moins de femmes que d'hommes aujourd'hui qui ont envie d'accéder à des conseils d'administration.
Mais c'est pas ça. C'est possible aussi. C'est que les femmes, elles ont eu des retards de carrière parce qu'elles ont fait les enfants, elles ont éduqué les enfants. Il y a toute la charge mentale aussi qui est encore très très mal répartie, même s'il y a des hommes absolument formidables. Et je compte le mien dedans. Mais on leur donnait pas accès. Donc il faut le temps que les mentalités des femmes, il faut le temps que les mentalités des femmes changent aussi, qu'elles s'autorisent ces postes-là, parce qu'une femme se demandera toujours si elle est légitime. Là où un mec, alors là,
il n'osera jamais demander une augmentation là où un mec va y aller.
Mais exactement.
Mais ça, c'est aussi à nous.
Mais parce qu'on a subi 2000 ans de patriarcat. Donc il faut le temps de changer les choses et de se dire, j'ai peut-être le droit d'être au conseil d'administration. Et ça apporte énormément.
Excusez-nous, hein, messieurs. On vous dérange
pas. Non, mais nous, pas du tout.
Pierre-Edouard Magnon. Est-ce que justement, il faut plus pousser les femmes à prendre des responsabilités en entreprise? Pourquoi pas des quotas, par exemple?
Alors, j'allais dire, le principe des quotas, c'est comme la parité à l'Assemblée, c'était sans doute le plus mauvais des systèmes, mais c'était le seul qui pouvait fonctionner. C'est le plus mauvais système, exception de tous les autres. Il y a effectivement, comme toujours, un énorme travail d'éducation à faire, parce qu'il y a aujourd'hui un phénomène de mentalité qui touche aussi bien les hommes que les femmes, avec notamment chez les femmes les phénomènes d'autocensure. Moi, qui, pour parler de secteurs que je connais bien, par exemple, le secteur de la mutualité, c'était formidable, vous n'aviez que des femmes salariées, et quasiment jusqu'au poste de direction générale, mais vous n'aviez que des hommes élus. Moi, j'ai commencé ma vie de militant dans les associations étudiantes, même dans des de sciences humaines, vous aviez 70% de femmes. Quand vous atteigniez la parité dans les associations, c'était magnifique. Alors que si on représentait l'ensemble, la parité n'aurait pas dû exister au bénéfice effectivement des femmes. Après, sur les inégalités de salaire, il reste un vrai point à régler, c'est le problème de régler la question du congé de maternité par rapport aux avancements.
Tout à fait.
Et ça, pour le coup, ça n'est pas difficile
à régler.
Ça, on
peut rien faire, ça.
Non, mais ça n'est pas compliqué à régler.
Oui. Parce qu'on on est quand même obligé, nous, de porter nos enfants.
Non, mais c'est pas le problème à régler. Il faut régler le fait que ça brise et que ça brise les avancements et les hausses de salaire. C'est-à-dire qu'il faut que ça cesse. C'est pas un arrêt maladie. D'abord, quand on est enceinte, on n'est pas malade. Enfin, on peut être malade pendant qu'on est enceinte.
Oui, mais bon, c'est pas un arrêt maladie.
Même si, malheureusement, on dit souvent, c'est souvent assimilé de l'arrêt maladie qu'on prend en termes de droit, hélas. Donc, il faut régler ce problème-là sur effectivement les questions des salaires. Après, oui, il y a aussi ce phénomène effectivement d'autocensure. Je ne crois pas. C'est pas une fatalité que les femmes spontanément se posent des questions de légitimité alors que les hommes ne s'en posent jamais. Mais après, c'est effectivement une question d'éducation. l'éducation, à l'école et dans les familles. Comment on remet les choses? C'est pourquoi il n'y a pas de femmes dans les facs de sciences? Pourquoi, qui connaît bien le secteur de l'aide à domicile? Ah ben là, l'aide à domicile, le problème de la parité, c'est qu'il faudrait que des mecs arrivent.
Oui. Ah ben on en a parlé il n'y a pas longtemps, tiens.
Il n'y a quasiment que des femmes.
Alors qu'on a besoin de mecs, parce que moi, j'ai un ami qui est handicapé en fauteuil roulant. Il faut quand même le porter, Nicolas, pour le mettre aux toilettes ou tout ça. Et il faut de la force.
Le cas de l'aide à domicile est intéressant parce que s'il n'y a que des femmes, il y a deux raisons. Il y a effectivement peu d'hommes veulent le faire. Et notamment, il y a un vrai problème sur les hommes qui ne veulent pas faire le ménage. Oui. C'est un vrai problème. Oui. Le problème existe aussi.
Il y a un vrai problème aussi dans la vie privée, ça.
Ça c'est, voilà.
Et il y a aussi le problème de l'autre côté, c'est-à-dire que les personnes en situation de dépendance âgées ou non, notamment, puis pour parler d'un cas concret des toilettes, on ne le veulent pas que des hommes fassent leurs toilettes. C'est forcément une femme qui doit le faire. C'est-à-dire qu'il y a aussi un problème en face des personnes qui utilisent ces services. Et donc, c'est là où on parle de mentalité et d'éducation. Ah, oui. Et ça, effectivement, ça ne se changera pas dans une loi.
Est-ce que c'est aussi aux femmes, Pierrico Légas, je vais dire, de se bouger, entre guillemets, voilà, de dire, bah, maintenant, on y est, il faut qu'on y arrive, on peut avoir ses postes à responsabilité. On sait que, par exemple, effectivement, sur les augmentations, une femme va beaucoup moins demander d'augmentation qu'un homme, là où un homme ne va jamais se poser de questions. La femme va se dire, est-ce que je le mérite? Est-ce que je suis légitime? Etc. Il reste encore ce genre de problème homme-femme, en fait. Et est-ce que les femmes doivent aussi en faire plus pour elles?
Alors, se bouger, elles le font, efficacement. Les augmentations, moi, je vois plus de demandes d'augmentation féminine abouties. Alors, elles sont peut-être moins nombreuses parce qu'elles n'osent pas, mais la demande d'augmentation féminine aboutit plus souvent parce qu'elle le fait, je vais dire, entre guillemets, de façon plus agressive. L'homme, il y va, il est mollement pour négocier. Une femme, elle dit, c'est scandaleux.
L'homme, il y va par routine et nous, on y va par routine,
il y va dans la négociation. La femme, elle dit, mon statut est scandaleux. Je gagne moins. Oui. J'ai tant, j'ai des enfants. Et le patron, devant une revendication salariale féminine, il a tendance beaucoup plus à céder. Souvent, elle est plus justifiée, peut-être.
Allez-y, Emmanuel.
Non, mais j'écoute Pierrico avec un grand intérêt. Donc, les femmes sont plus agressives.
Je te donne un conseil. Oui, agressive, c'est-à-dire que.
Elle a plus d'arguments, c'est ça.
Oui, et elle est plus en colère. Quand elle m'a demandé, c'est vraiment qu'elle.
Oui, mais on sait se tenir quand même. On vient
j'ai
dérouler
pas dit
des arguments.
J'ai pas dit qu'elle arrachait les yeux.
J'ai
pas dit qu'elle arrachait les yeux du patron. Mais une femme en colère fait peur. Quand elle vient de demander son salaire, parce que quand elle va demander son augmentation, comme elle s'est, voyez, elle s'est blindée de courage, parce que justement, elle arrive et devant le patron, il est tétanisé, le mec. Et elle est là et le mec il ressort traumatisé, tu vois, la mauvaise conscience. Mais je l'ai vu, et voilà. Et elles sont des négociatrices. Moi, je t'ai tout de suite.
Tu crois vraiment à ce que tu dis là?
Je ne crois pas. Je te parle de scènes, de témoignages que j'ai eu de patrons.
Mais tu rigolais même pas là.
Ah non, je ne suis pas en situation de devoir augmenter. Je vous parle de patron.
Et les hommes, ils sont comment quand ils demandent une augmentation?
J'ai cédé parce que l'argument était valable et la façon dont elle a argumenté, j'avais pas le choix.
T'as cédé parce que c'était valable. Voilà. Et l'homme, tu cèdes pas parce que c'est pas valable.
Et l'homme arrive toujours en expliquant, on a toujours un bon prétexte. Mais on n'a pas un prétexte aussi légitime qu'une femme qui gagne moins, qui bosse.
Ah bah oui, c'est sûr.
Il y a très peu de tir au flanc chez les femmes. Oui. Le tir au flanc, c'est
Je peux t'assurer que j'ai jamais été agressive quand j'ai demandé des augmentations de salaire. Je peux t'assurer.
Par ailleurs. Par ailleurs.
C'est parce que tu débarques.
Par ailleurs. Il est des activités en France où la femme devient majoritaire. L'éducation, la justice. C'est
pas dans les hôpitaux, la femme est majoritaire. Les médecins sont majoritaires et les chefs de service sont que les médecins.
C'est pas pour ça que ça se passe mieux. Donc l'important, c'est
pour ça qu'elle ne dirige pas.
Non, moi je dis la condition féminine est irréversible. Vous serez toujours des femmes avec toutes les réalités inhérentes à cette féminité et nous serons toujours des hommes. Voilà, nous serons toujours avec des problèmes de mecs.
Prenons en compte
voilà,
tout cela.
Mais adaptons-le à la réalité. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez accès aux compétences. Et quand le monde éducatif vous ouvre les portes et que vous avez les compétences, vous avez le salaire. Et je considère aujourd'hui, dans ce que je vois, qu'une femme compétente a un salaire supérieur à un homme.
Mais tant mieux.
Voilà. Et ce n'est que justice.
On ne vit pas dans le même monde.
Alors, ce n'est pas la généralité. Il y a un chemin gigantesque à faire. Mais je peux te dire que la correction de ce que tu dénonces, elle est en train de se faire à vitesse grand V, c'est dans les faits. Et que la France a beaucoup d'avance sur d'autres pays. Beaucoup de retard sur des pays anglo-saxons.
Voilà,
mais dans deux pays. Oh. Donc, arrêtez de pleurer. Le chemin qui a été fait est immense.
Arrêtez de pleurer, mais pitié.
Le problème, c'est que le travail à mi-temps, souvent, est fait par des femmes.
Les boulots
mal payés sont souvent faits par des femmes.
En même temps, c'est le débat. Est-ce qu'il faut salarier
des postes à temps partiel?
Et c'est le débat qu'on a eu.
Des mecs qui prendraient des postes à temps partiel pour s'occuper de leur enfant. Il n'y en a pas des tonnes. Excuse-moi.
En effet,
parlait justement de cercle vicieux.
Oui,
les femmes ont les plus bas salaires. Quand dans un couple, parce qu'il y a les enfants, qu'il n'y a pas de moyens, qu'il n'y a pas de solution de garde, qui doit arrêter de travailler? Bah forcément, le salaire le plus petit, et du coup, mécaniquement, c'est la femme, ce qui fait qu'elle reprend encore plus de retard dans sa carrière professionnelle.
Ça s'inverse. C'est en train de s'inverser.
Ça s'inverse parce que les femmes font de plus en plus d'études. Et effectivement, là aujourd'hui.
Ça s'inverse, mais on est quand même très loin du but.
Les femmes font de plus en plus de hautes études, donc ça va s'inverser. Elles vont de moins en moins faire de petits boulots. Et donc, au final, mais ça va évidemment prendre du temps, trop de temps, ça. On est
une femme qui a envie d'élever ses enfants, elle a le droit de considérer qu'elle va avoir un désavantage social ou professionnel parce que c'est un choix.
Pas normal.
Mais c'est compensé ensuite par la société. Mais elle sait au départ.
Comment ça, c'est compensé par la société?
Si elle veut, c'était le débat qu'on avait sur les femmes, est-ce qu'on peut salarier les femmes au foyer? En fait, c'était les couples au foyer. C'est la femme que ça concerne. Il y a des femmes aujourd'hui qui disent je préfère renoncer à un statut salarial ou social, mais au moins j'ai la certitude.
Oui, enfin,
c'est
des avantages. Oui,
on aimerait tout faire.
C'est des avantages
en fait.
Pas que les femmes, parce que là, tu nous parles d'un couple.
L'éducation des enfants est primordiale.
Moi, je sais que si ma femme demain est enceinte, eh ben, je serais très en colère si elle est désavantagée d'un point de vue salarial et d'un point de vue de sa carrière, parce que ça me concerne aussi.
D'accord. Et qui s'arrêterait entre vous deux?
Il ne faudrait pas que l'un soit désavantagé par rapport à l'autre, que ce soit l'homme ou la femme. Un couple, c'est une unité. Donc si
normalement,
mais c'est vrai. Regarde. Si ma femme est désavantagée dans sa carrière ou dans son salaire demain, ça me concerne aussi. Parce que le couple est désavantagé, c'est pas elle qui est désavantagée.
Il y a un symptôme tragique. Les hommes ne prennent pas leur congé paternité.
Ça, c'est dingue.
Ça, c'est un symbole très fort. Les hommes prendront tous l'intégralité de leur congé paternité. On n'aura pas fait la révolution, mais ce sera un changement. Ça veut dire que les mentalités ont énormément évolué.
Alors attention. Hein, c'est pour donner un coup de main à l'épouse qui vient d'accoucher au foyer. C'est pas pour aller boire un coup avec les copains.
Oh là là, mais
moi. Non, mais je me méfie des mecs.
C'est vrai.
Un congé maternité, je peux vous dire que la femme, elle le consacre totalement à sa maternité.
Non, mais merci de me dire paternité. Ce qu'on doit faire. Excusez-moi, pendant mon congé maternité, si j'avais voulu aller boire des bières avec des copains.
C'est quand même
copines,
elle qui accouche, non?
Le congé maternité, il est avant et après.
Des bières sans alcool.
Non, mais une fois que t'as accouché,
Non, mais attends, si tu allaites, Estelle, si tu allaites.
Oui, mais c'était pas mon cas. Parce que je veux dire, on a encore le droit de faire ce qu'on veut de notre congé maternité et de notre congé paternité.
Oui.
Tu vois, je veux dire, on n'a pas un censeur, il n'y a pas la sécurité sociale qui vient voir ce qu'on fait.
Il manquerait plus que vous mordiez, mais quand même.
Non, mais tu sais, c'est comme moi j'ai fait 3 grossesses dont une gémellaire, ça fait 27 mois enceinte et j'ai fait 30 mois d'allaitement, 10 mois après chaque grossesse. Ça te plombe, mais ça te plombe une carrière. Mais je regrette pas. Je regrette la façon dont ça a réagi en face. Voilà.
C'est affreux ce que j'entends, mais c'est bon.
C'est la modernité.
On ne sera pas mieux que ça. Mais enfin, c'est brillant. Bon, écoutez.
Il vaut mieux faire des enfants que de créer une start-up. Je suis désolé pour l'humanité.
Mais les deux sont bien. Ça dépend ce qu'elle fait, ta start-up.
Elle dépose de bilan. Ouais. Alors que les enfants nous donnent de la
vie. On peut faire les deux en même temps, c'est pas mal non plus. Rémi, des messages, terminons par une.
Allez, un message de Julien. Bonjour, j'avoue que ma femme aurait beaucoup plus évolué professionnellement si elle n'avait pas eu nos deux filles. Par contre, moi je participe à la maison, je fais la cuisine, le ménage, le linge, le devoir des enfants. Je gagne 2 500 € en tant que chauffeur poids lourd. Ma femme, 2 000 € seulement. Pourtant, elle est programmeuse informatique. Je trouve ça totalement injuste.
Mais ça, c'est pas un débat.
Merci, très bon témoignage. Alors, on vous a posé la question, en fait-on assez pour les femmes? Et à mon avis, qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont répondu.
Non, je quitte cette émission.
C'est une spéciale dédicace pour Emmanuel.
C'est la première fois que ça m'arrive, mais j'ai pas envie de donner le résultat.
Tu veux que je donne? Les hommes sont plus nombreux.
C'est moi qui ai appelé.
C'est Perico qui
a fait appeler par les copains.
C'est un oui à 65%.
Merci Estelle de l'avoir fait pour moi.
Largement assez.
Merci d'avoir fait pour moi.
Et c'est bien payé.
Ah, dans un instant, tiens, un homme formidable. Anthony Morel, on parle de la Coupe du Monde. Parce que l'intelligence artificielle a fait des pronostics et on les découvrira, ces pronostics, dans un instant. A tout de suite dans Estelle Midi.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Midi 50 sur RMC, RMC Story. On va tout de suite accueillir Anthony Morel. On n'arrête pas le progrès, c'est parti.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Et Anthony, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez nous faire gagner beaucoup, beaucoup d'argent parce qu'en exclusivité, 2 jours avant le début de la Coupe du Monde, vous êtes en mesure, Anthony, de nous dire qui va remporter le mondial.
Ouais, alors misez pas quand même toutes vos économies dessus, hein, je le précise.
Non, j'en avais un peu dans les crypto-monnaies, déjà ça fonctionne pas très bien
en ce moment. Donc, mais c'est un autre sujet, ce sera a priori l'Argentine. Voilà, l'Argentine.
Ah bon, ouais. Ils sont à 6,50.
C'est vrai?
Ouais, le favori c'est le Brésil à 5, l'Argentine est à 6,50 et la France.
Ce serait victoire 1-0 en finale face au Brésil et la France qui finirait 3e de la compétition, sortie en demi-finale par l'Argentine. Justement, alors c'est pas moi qui le dis, vous aurez bien compris, c'est EA, c'est l'éditeur de FIFA, vous savez, FIFA c'est le jeu de foot le plus vendu au monde. Et en fait, à chaque grande compétition, ils font tourner
leur simulateur, leur jeu qui est extrêmement précis parce qu'il est basé sur une base de données qui est énorme, parce qu'ils modélisent tous les joueurs, toutes les équipes de manière extrêmement fine, ils mettent ça à jour quasiment en temps réel. Et donc, eh bien, ils ont obtenu ce résultat. Alors, je vous donne le parcours des Bleus quand même, parcours simulé, hein, je précise. Donc, huitième de finale, on gagne 2-1 contre la Pologne. En quart, on se retrouve contre les États-Unis. Bon,
ah oui,
1-0.
On bat personne.
Ah bah, écoutez,
oui,
bah là, et c'est... puis 1-0, ah oui, 1-0 contre l'Argentine, on perd donc en demi-finale. Lionel Messi qui finit soulier d'or, 8 buts marqués. Et Kylian Mbappé, 6 buts marqués, qui est deuxième. Voilà. Donc on verra ce que ça donne.
On est sûr
vrai.
De ça. Bah,
c'est évite de regarder la télé.
On est sûr, on n'est pas sûr.
On gagne du temps.
Yes, c'est FIFA qui le dit.
Oui. Moi, je suis pas. J'ai
non, vous n'êtes pas convaincu.
Non, j'ai pas.
On verra. Ils ont fait ça il y a 4 ans ou pas?
Voilà. Je vais essayer de vous convaincre.
Paul Le Poulpe.
Alors, ça, moi, je préférais Paul Le Poulpe.
Non, non, mais Paul Le Poulpe, c'était bidon. Mais FIFA, attendez. Parce que ce qui s'est passé il y a 4 ans. En fait, les résultats de cette intelligence artificielle qui tourne à chaque compétition, ils sont incroyablement justes, mais même étonnamment justes.
Voilà. Attendez.
En 2018, ils avaient prédit la victoire de la France, mais pas seulement la victoire de la France, c'est-à-dire tout le parcours, qu'on éliminerait l'Argentine en huitième, l'Uruguay 2-0 en quart, qu'on sortirait la Belgique en demi-finale, avant le début de la compétition. Avant le début de la compétition, qui avait deviné ça? Et qu'on finirait par l'emporter. Et pour la petite histoire, vous savez qu'ici, en interne, on organise toujours...
Vous avez donné toujours un...
Alors justement, hein, parce qu'on organise un concours interne à chaque fois, vous savez. Et moi, je l'ai fait il y a 4 ans.
Ouais.
Et j'ai participé, il y avait 4000 participants.
T'as
j'ai
gagné
rien en foot. J'ai recopié tous les pronostics de FIFA, j'ai fini deuxième sur 4000.
Non.
T'as gagné quoi?
J'ai gagné un smartphone. Voilà.
Wow.
Alors, moi, j'en ai pas forcément besoin.
J'espère. Enfin,
j'en dis pas plus. Parce qu'il y a quand même une personne qui a battu l'intelligence artificielle, quand même très très fort. Mais enfin voilà, c'est pour vous donner une idée. Et en 2014, elle avait prédit la victoire de l'Allemagne, 2010, la victoire de l'Espagne. Donc globalement, c'est quand même étonnant. Et ça fonctionne aussi sur le foot américain, pour la petite anecdote aussi, puisque le jeu NFL, Madden NFL, qui est l'équivalent de FIFA pour le foot américain, a prédit 5 des 11 derniers Super Bowl, donc des dernières finales de championnat. C'est quand même assez fou, quoi.
Je veux que vous me donniez.
Je vais vous donner les
tous
pronostics.
Les pronostics de FIFA. Non, mais écoutez, Anthony, on ne sait jamais. C'est pas de la magie non plus, hein. Il arrive quand même que les ordinateurs se trompent.
Évidemment. Et c'est pour ça que je vous disais, ne misez pas vos économies sur ce que je viens de vous dire. Et c'est ce qui fait la beauté du sport. Heureusement, la machine ne peut pas tout, ne peut pas prédire une blessure subite, ne peut pas prédire un coup de génie subi également, un manque de cohésion dans une équipe ou une cohésion incroyable dans une autre. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs intelligences artificielles et qui donnent pas forcément exactement les mêmes résultats.
Ah bah ça m'arrange pas ça.
Alors c'est vrai, mais en général le tiercé de tête c'est quand même le même. Alors Opta par exemple qui est spécialiste des, voilà, vous connaissez bien,
des stats.
Hein, des stats et des données sportives, eux ils donnent le Brésil gagnant, Argentine deuxième et France en troisième, et l'intelligence artificielle de l'université d'Oxford donne la Belgique devant le Brésil, la France et l'Argentine. En tout cas Brésil, Argentine, France, on voit bien qu'il y a quand même un petit schéma qui se dessine. On verra ce que ça donne. En vrai, je vous ferai un petit
débrief. Il y a toujours une surprise en Coupe du Monde. Hein. Vous
en plus,
ça.
Non, mais c'est vrai. Non, vous avez
c'est
raison.
Un algorithme ou non? En fait, c'est un algorithme ou pas tout à fait?
Alors oui, en fait, c'est des outils algorithmiques hein, qui malaxent des tonnes de données et qui font le sport de plus en plus. C'est des stats, c'est de la donnée, mais ça n'est pas que ça non plus. Mais ce qui est fascinant, c'est que l'analyse prédictive, là, ce que je viens de vous dire, les champs d'application sont énormes. C'est aussi dans la politique pour essayer de deviner quel sera le futur vainqueur d'une élection. Ça va être même dans la criminologie pour essayer. Je vous ferai une chronique là-dessus de déterminer où vont se produire les prochains crimes. C'est Minority Report. Wow. Il y a des trucs complètement fous. Ouais, mais ça, je vous ferai parce qu'il y a vraiment plein de trucs à raconter là-dessus. Donc vraiment, c'est un champ de recherche absolument considérable. Le foot, c'est une vitrine technologique, mais dont les résultats, pour l'instant, sont quand même assez spectaculaires.
Ils ont prévu que j'allais étrangler Perico ou pas du tout?
Mais...
Non,
ça, je sais
non
pas.
Tu sais pas.
Et l'égalité femmes-hommes, c'est pour quand?
Et ils ont mis quoi sur Qatar Équateur?
Je crois que la Coupe du Monde.
Je l'ai pas celui-là. J'ai pas.
Prouvez-le.
Plus
sérieusement,
plus palpitant de la compétition.
Plus sérieusement, si ça s'avère une science exacte systématiquement, est-ce qu'il peut pas y avoir une incidence sur le moral de l'équipe? Elle sait qu'elle va perdre.
Mais oui.
Non. Bon, écoutez, ça n'est pas une science exacte. Voilà. Vraiment,
non, mais si ça s'avère,
ça s'avère. Bon, merci beaucoup Anthony Morel. Bon week-end à vous Anthony.
Ah ben, merci beaucoup.
Reposez-vous bien.
Ça s'avère.
Merci Anthony. Tous les jours 12h50. Dans Estelle midi, dans un instant, on parlera de la nouvelle indemnité carburant. Vous savez que c'est fini, hein, la ristourne à la pompe, mais il y a une nouvelle indemnité carburant. Alors, ce sera pour les Français les plus modestes, mais on ne sait pas très bien lesquels, qui effectuent un trajet long pour aller au travail, mais on ne sait pas ce que veut dire long. Bref. On n'en sait pas beaucoup plus, mais on en parlera quand même dans un instant à 13h. À tout de suite dans Estelle Midi.
Plus modeste, c'est ce que je peux faire en avant.
Midi 15h.
Estelle Midi.